tout à fait.
Moi, c'est André Dembouima, au Katanga oriental. J'ai réfuté totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Excellente condition d'écoute du programme de Radio Okapi à toutes et tous, chers auditrices, auditeurs et internautes. Bienvenue à ces forums du débat citoyen sur votre radio, la radio de la paix, Radio Okapi. Vous nous écoutez sur la bande FM, vous nous écoutez également sur le bouquet Canal Plus, sur Channel 951. Vous êtes aussi nombreux à nous suivre sur les channels 867 sur DSTV. Vous nous écoutez aussi sur www.radiookapi.net et sur la chaîne YouTube de votre radio et sur notre page Facebook. On vous dit merci, merci de tout cœur. Toute l'équipe s'est mobilisée pour vous rendre service. Esther Mamboté, David Moussangou pour les lives. Nancy Atambo réalise ses programmes. Paul Badianyama, Patrick Kiasongo assure la mise en onde. Je suis Jean-Marc Matoua qui m'offre les 10 janons. Bienvenue à toutes et à tous. Alors, aujourd'hui, nous allons faire le point sur la riposte du virus d'Ebola en République démocratique du Congo. Plus d'un mois après, déclaré officiellement le 15 mai 2026, l'épidémie des maladies d'Ebola due au virus Boudibougyo continue de gagner du terrain dans l'est de la République démocratique du Congo. Trois provinces, à savoir l'Ituri, le Nord Kivu et le Sud Kivu, sont les plus touchées. Il s'agit donc de la 17e épidémie d'Ebola déclarée en République démocratique du Congo. Quel bilan peut-on faire sur la riposte contre Ebola? Quelles sont les actions d'envergure menées sur terrain par les gouvernements pour contrer la propagation de cette maladie? Comment impliquer la population dans la prévention pour éviter une grande propagation du virus d'Ebola? Quid du projet sur les vaccins? Comment les gouvernements s'impliquent pour éviter la propagation à grande échelle? Parole aux auditeurs, votre forum du débat citoyen aborde justement cette thématique ce mardi. Donc aujourd'hui, avec vous, chers auditeurs, auditrices, avec les porte-parole du gouvernement, les ministres de la communication, médias, Patrick Muyaya Katemboué que nous recevons. Bonjour Monsieur le Ministre et bienvenue.
Bonjour Jean-Marc, bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Alors n'hésitez pas déjà à vous enregistrer au numéro plus 243 81 32 34 883 81 32 34 883. Vous avez déjà la parole et n'hésitez pas à réagir.
L'information se retrouve aussi tout le jour sur radiookapi.net. Actualité, sport, environnement, économie, culture. Réécoutez les journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Chaque matin, lisez aussi la revue de la presse congolaise. Radiookapi.net, votre site d'info sur le Congo. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'utiliser.
Parole aux auditeurs, fait le point sur la riposte contre Ebola en République démocratique du Congo. Plus d'un mois après, nous recevons le ministre de la Communication et Médias. Monsieur le ministre, bienvenue encore chez nous.
Merci beaucoup de me recevoir, Jean-Marc Matoua.
Voilà. Alors aujourd'hui, selon les statistiques, on signale 1561 cas confirmés, 506 décès, 253 guérisons. Alors quel est l'état des lieux que vous qu'on a vu sur terrain, aux côtés du ministre de la Santé, de quelques autorités, de l'OMS, quel est l'état de lieu que vous faites sur cette riposte?
Bon, écoutez, nous sommes aujourd'hui, la déclaration officielle avait été faite le 15 mai, nous sommes le 7 juillet, donc à presque 52 jours depuis les débuts de la maladie. Ce que j'observe, c'est que nous avons pleinement pris la mesure du décès. Mmh. Et je pense que nous y étions encore il y a quelques semaines avec le ministre de la Santé. Et il est probable d'ailleurs d'y retourner bientôt pour faire le point de comment la riposte fonctionne dans son ensemble. Parce que dans la riposte, il y a plusieurs piliers, notamment prise en charge de malades, surveillance. Et ce que vous venez de partager, ce sont des chiffres que nous publions au quotidien parce que nous avons fait le choix dès les premières heures de l'épidémie d'être transparents. Et les chiffres que nous publions, c'est des chiffres qui sont consolidés ensemble avec Africa CDC, ensemble avec l'Organisation mondiale de la santé et d'autres partenaires trouvés sur place qui illustrent déjà que nous avons ensemble pris la mesure du décès. En parallèlement, nous avons déployé ce que les experts de l'OMS appellent riposte robuste parce que en très peu de temps, il fallait nous assurer que Bounia a la capacité des lits qu'il faut pour accueillir à la fois les malades et les cas contacts, dans ces mêmes cadres que Bounia a des points d'entrée et des contrôles bien renforcés, avec des screenings, donc prise de température, lavage de mains, des dispositifs partout dans la province. Et il fallait surtout, et c'est une composante importante parce que beaucoup de gens disent que cette maladie n'a pas de traitement, n'a pas de vaccin, ce qui n'est pas faux à ces jours, parce que nous avons développé pour la souche Zaïre et pas pour la souche Mundibugyo. Il y a évidemment des travaux qui sont en cours quant à ceux. Mais il y a une composante essentielle du traitement qui s'appelle la prévention, tout simplement. Lorsque vous prenez conscience de la maladie, ça vous permet d'aller plus tôt à l'hôpital. Et je rappelle ici que nous avons décrété la gratuité de soins de santé de toutes les maladies dans toute la province de l'Ituri. Ça veut dire que n'hésitez pas, parce qu'il y avait cette forme d'hésitation au départ. Et donc aujourd'hui, nous regardons comment les virus évoluent, mais nous regardons surtout comment les capacités mises en place fonctionnent. Si vous regardez le tableau que vous avez lu tout à l'heure, le point, l'un des points les plus importants, c'est les taux des suivis de contact. C'est illustratif de comment nous sommes mobilisés pour le suivre partout où il se trouve, et nous espérons atteindre le 95%. Dès qu'on atteindra le 95%, on aura une vue globale sur les virus, comment il s'est propagé, mais surtout comment il faut le traiter. Donc ici, je tiens à remercier particulièrement toutes les populations des Litouri, mais aussi celles du Nord Kivu et du Sud Kivu qui connaissent la maladie, parce que c'est leur degré d'engagement qui nous permet aujourd'hui de regarder la maladie avec toutes les mesures de prise en charge déjà déployées. Et plus ils vont s'impliquer, plus nous saurons retracer tous les cas, on pourra faire de ces virus le passé dans un avenir proche.
Alors on a déjà des réactions sur les standards. Il y a Marie-Paul qui nous appelle depuis Kisangani dans la province de la Tchopo. Bonjour et bienvenue Marie-Paul, vous avez la parole. Marie-Paul, est-ce possible d'activer votre micro?
Oui, c'est Marie-Paul, je suis en ligne.
Alors, vous avez déjà la parole, je vous ai déjà présenté, c'est depuis Kisangani que vous nous appelez.
Oui, merci monsieur le journaliste pour cet appel. Je voudrais ici, bien évidemment, d'abord saluer le ministre qui est votre invité, mais aussi dire quelque chose par rapport à ce virus qui, depuis sa résurgence,
ben, on a des soucis avec la ligne téléphonique de Marie-Paul. Prenons Évariste Kabemba depuis Mbujimayi.
Oui, bonjour, cher journaliste de la Radio de la Paix. Bonjour à l'excellence Patrick Mouyaya Temoué. Merci beaucoup. Je remercie le ministre de la Communication Patrick Mouyaya pour son amour envers cette nation qui est la nôtre et pour son travail qu'il est en train de battre pour quand même un avancement meilleur de cette nation. Merci.
C'est tout comme intervention?
Non. Je suis en ligne.
Parce que vous êtes su, si vous pouvez continuer, parce qu'on court derrière les temps, papa.
Ok, merci beaucoup de la parole accordée. J'ai quelques préoccupations à soumettre à notre ministre de la Communication, M. Patrick Mouyaka Temoué. Merci beaucoup. Concernant les virus Ebola, je vais demander à l'excellence de pouvoir me donner la date de la découverte de ces virus. Et une autre préoccupation, pourquoi n'y a-t-il jusque-là les virus, disons, les vaccins qui peuvent mettre un terme à ces virus? Et pourquoi ces virus tuent toujours nos compatriotes de l'Est? Est-ce que ces virus est réellement toujours à l'Est de la nation ou bien c'est quoi? Aussi longtemps que les compatriotes sont tués par les antagonistes suite à des problèmes qui gangrènent la nation jusqu'à aujourd'hui, et ce sont eux-mêmes qui subissent toujours une menace du virus Ebola. Pourquoi ça? Pourquoi? Qu'est-ce que l'OMS a mis en jeu pour mettre un terme? Et qu'est-ce que le gouvernement congolais est en train de spéculer pour pouvoir mettre un terme à ça? Je voulais encore parler quelque chose. Nous avons eu la pandémie à coronavirus récemment. Il y a quasiment 6 et 4 ans qu'on a mis un terme à ça. On ne parle pas encore de la pandémie à coronavirus. Pourquoi pas ne pas mettre aussi un terme à la pandémie ou au virus Ebola qui tue toujours les compatriotes de l'Est? Je suis désolé, de l'entendre chaque fois que les compatriotes sont tués par des armes et les compatriotes sont tués par les virus Ebola. On en a marre. C'est ça mes préoccupations. Merci beaucoup à l'Excellence.
Merci beaucoup. Merci pour votre question. Alors, on va reprendre Marie-Paul qui avait des petits soucis avec sa ligne téléphonique. Marie-Paul, bonjour et bienvenue encore.
Je suis en ligne. Vous m'entendez?
Si vous nous écoutez, réagissez parce Allô? Que... Il y a beaucoup de gens qui veulent prendre la parole. Vous avez déjà la parole.
Oui, je suis là. Monsieur le journaliste, j'étais en train de dire ceci que la RDC a déjà vécu dans le passé ce virus. Et en principe, si ce pays était un bon élève par rapport en matière d'intervention rapide devant une épidémie, devant une pandémie qui est dit le virus Ebola, on ne devrait pas voir les compatriotes qui sont en train de mourir comme des mouches parce que au-delà des chiffres qu'on est en train de donner officiellement, il y a beaucoup de gens qui sont morts et parfois qui ne sont même pas comptabilisés justement pour éviter des psychoses. Alors, la leçon que nous pouvons tirer des ordres liés en matière d'endiguer bien évidemment des pandémies ou d'attaquer des maladies qui touchent la population, c'est que notre structure médicale, nos hôpitaux, nos agents soignants ne tiennent pas compte de pouvoir mener des recherches, avoir des dispositifs au camp d'urgence. Nous avons toujours dit dans ces pays, nous avons des soucis par rapport aux interventions urgentes. Et certainement que Monsieur le ministre, qui est votre invité, essaye de tirer un peu, que dirais-je, de dire un peu que le gouvernement n'est pas en train de rêver, le gouvernement est en train de travailler. Mais cette intervention, nous l'avons vu, c'était une intervention tardive. C'était une intervention où on a fait des déclarations, mais sur le terrain, il n'y avait pas encore des soignants qui devraient en principe, prendre toutes les dispositions pour éviter qu'il y ait la propagation de ces virus. Et maintenant là, et rappelez-vous, monsieur le journaliste, nous sommes dans un état où les frontières internes sont également poreuses comme les frontières externes. Est-ce qu'avec des mouvements qui ne sont pas contrôlés, on risque d'assister, bien évidemment, à une propagation si rapide de cette pandémie, parce que jusque-là, il n'y a pas encore de vaccins. Les vaccins n'existent pas encore. Il n'y a pas encore de médicaments. Tout ce que les médecins sont en train de faire là-bas, ce sont des tâtonnements où on utilise un peu des désinfectants, on utilise un peu des calmants, mais la solution n'est pas encore là. C'est ça la grande peur que nous avons, qu'on risque dans ces pays ici, assister encore une fois, au-delà des guerres que nous connaissons, assister encore avec cette hécatombe de la population et bien évidemment avec, je dirais, entre guillemets, avec une merci des gouvernants. Parce que tout ce que les gens sont en train de dire, ce sont des choses qui disent en grande distance, au-delà du fait qu'il y a une délégation qui était sur place, mais les médecins là, vous pouvez imaginer, celui qui est censé procurer, lui-même, il est rattrapé par les virus, il est mort, nous connaissons la mort des médecins, et ça donne déjà une grande psychose, même nous qui sommes à Kisangani, nous disons, au-delà du fait qu'il n'y a pas de mesures, il n'y a pas tout simplement des observations ou gestes barrières, et les gens s'attroupent de gauche à droite, est-ce que cette maladie n'est pas toujours, cette épidémie n'est toujours pas ici, ce virus, mais on risque, ce sont beaucoup de questions, et à mon avis, ce qu'il faut faire, c'est que nous devons, le pays doit investir, le pays doit investir bien évidemment dans la recherche. Et la recherche, ça ne doit pas être politisé où on doit réunir les gens dans des bureaux climatisés, ils disent des choses. Il faudrait vraiment qu'il y ait des bons investissements au niveau des centres, au niveau des laboratoires, pour faire des projections. Et surtout s'il y avait quand même au-delà...
Merci beaucoup Marie-Paul, ils sont nombreux à réagir comme vous. Merci beaucoup pour vos questions et vos préoccupations. On va quitter donc Kisangani pour nous rendre dans les Bandundu où nous attend Nkanga Lobola. Bonjour Monsieur Nkanga. Si vous pouvez déjà activer votre micro. Bienvenue.
Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vraiment, pour moi, je félicite d'abord l'équipe de Riposte qui est debout là-bas, en Ituri, et dans cette zone qui est vraiment touchée par le virus, la maladie Ebola. Mais, pour qualifier, moi je le qualifie d'abord. Mais dommage. Et pour l'accompagnement du gouvernement. Nous venons de suivre que Il y a une grève qui se passe dans cette équipe puisqu'ils dénoncent qu'il n'y a pas vraiment de régularité pour les soutenir en salaire, en prime et tout comme ça. Vous voyez, si l'équipe commence à se lamenter comme ça, bon, comment est-ce qu'on peut évaluer très très bien le travail qui est en train de se faire? Je viens de lire aussi et je viens d'écouter que le professeur Mouyembe dit que attention avec ceux qui sont guéris par cette maladie, en contact avec, avec la relation sexuelle, ça peut aussi se transmettre. Alors, il doit y avoir des mesures préventives. Hein? Si un scientifique dénonce quelque chose, il doit y avoir un suivi qui est vraiment mis en rigueur. Or, la République démocratique du Congo a déjà cette expérience par rapport à ce virus-là. Je ne sais pas si c'est 7e fois, si 6e fois ici, si je ne m'habite pas.
C'est la 17e épidémie. Oui? 17e.
Ok, merci. Ça se répète. Donc nous sommes en mesure de comprendre tout ce qu'on peut faire pour que ça ne se répande pas là où il y a encore la population qui n'est pas encore contaminée. Bon, l'appréciation pour moi, journaliste, en tout cas, je me félicite d'abord et je suis fier d'être un Congolais.
Okay.
Puisque les Congolais, avant d'être soutenus, eux-mêmes, ils se soutiennent. Et je félicite aussi le monde, puisqu'il y a beaucoup d'aide, tout ça. Mais la fermeture des frontières, ça, j'accuse ça. Il ne faut pas fermer la frontière, puisque si vous fermez, ce n'est pas ça la riposte. Ce n'est pas ça entraver la propagation. Non. Mais il faut entrer en profondeur. Pour chercher comment on peut arrêter définitivement la présence de cette maladie dans notre pays. Merci. Une santé là travaille très très bien.
Merci beaucoup Monsieur Nkanga pour votre intervention et votre analyse. Nous quittons Bandunduville pour la ville province de Kinshasa où nous allons joindre Dr Michael Bolingo. Bonjour docteur et bienvenue à ces débats. Est-ce possible d'activer votre micro?
Ça va comme ça?
Oui, ça va. Vous êtes déjà en direct, okay. Et les ministres vous écoutent.
Ok, merci. Voilà, je salue les ministres qui est au studio. Je salue tous les invités, tous les correspondants qui venaient de dire quand même quelque chose. Mais moi, ce que j'avais à dire, à contribuer par rapport, en premier lieu, c'est d'encourager les ministres ainsi que son équipe pour ceux qui sont isolés à faire par rapport à l'évolution de là où nous sommes. Mais il y a encore d'autres choses à faire. À l'instant, je voulais proposer au ministre de renforcer la sensibilisation parce que la zone où se trouve l'épidémie, c'est un endroit où le niveau d'étude est un peu trop bas. C'est-à-dire qu'il faut renforcer la sensibilisation dans des églises, dans des écoles, un peu partout là où on peut trouver une masse de la population. Parce que c'est là où, si on parvient quand même à atteindre la cible comme population, il n'y aura plus beaucoup de résistance. Alors, il y a un aspect très important, c'est que nous venons de comptabiliser au moins un certain nombre de confrères, médecins, les infirmiers et d'autres corps médicaux et paramédicaux qui sont en train de mourir dans des contextes peut-être non expliqués. Parce qu'il y a même des confrères, nous sommes en contact permanent avec nos confrères qui sont dedans, ils disent que parfois lorsqu'un médecin est malade, il n'est pas suivi comme il faut. Alors, on se demande de quoi, qu'est-ce qui ne marche pas. Au-delà de ça, il y a aussi d'autres médecins qui n'ont pas la prime de risque. Je voulais que le ministre puisse nous dire qu'est-ce qu'il en pense par rapport à cet aspect-là. L'autre préoccupation, c'est que nous avions entendu qu'il y a eu des médecins qu'on a importés de l'Ouganda venir travailler au Congo. On ne sait pas s'ils sont des experts à la matière, mais il y a beaucoup de médecins, nous qui sommes ici dans la ville de Kinshasa et même en province, qui veulent aller travailler là-bas. Mais on n'a pas accès. On n'a pas accès du fait que les ministres n'ont pas fait appel à nous. Et pourquoi maintenant aller importer à rien? Alors l'autre aspect, toujours associer les leaders locaux, les chefs coutumiers, les chefs de village, les chefs religieux, pour qu'il y ait quand même, pour qu'il y ait ce renfort-là de la sensibilisation. Voilà un peu ce que je voulais ajouter. Mais toutefois, nous devons les féliciter par rapport au travail qu'ils sont en train de faire, mais aussi utiliser la main d'œuvre congolaise, parce que les Congolais sont un peu expérimentés dans cette dans cette affaire-là d'épidémie. Je dis et je vous remercie.
Merci, docteur Michael Bolungo, c'est depuis Kinshasa que vous intervenez. Alors, plus 243 81 32 34 883, c'est le numéro par lequel vous pouvez nous contacter pour qu'on vous rappelle pour intervenir à ces débats. Parole aux auditeurs, fait le point sur les bilans de la riposte contre Ebola. Plus d'un mois après, nous recevons le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. On va prendre Ornicard qui nous appelle depuis Likasi. Ornicard Banza, bienvenue dans Parole aux auditeurs. Bonjour, si vous pouvez déjà activer votre micro.
Bonjour, monsieur Jean-Marc. Merci nécessairement pour cet accord de la parole. Bonjour à votre ou notre invité, monsieur Katembwe, son excellence, monsieur le ministre. Je crois que particulièrement par rapport à cette propagation, moi j'estime que quelque part, avant d'éradiquer cette épidémie, il fallait commencer par d'abord stopper la propagation. Mais cette propagation, je crois que est beaucoup plus activée par la mauvaise communication et moi je pourrais dire même des récupérations politiciennes. Je m'explique. Je ne sais pas concrètement, je sais que c'est le gouvernement qui est en train de gérer et le gouvernement a toute la perception de toutes les choses ou de toute la situation. Mais vous allez vous rendre compte que chaque fois où généralement dans mon pays, les décisions ne tombent que quand nous sommes à la veille d'une certaine manifestation de l'opposition. Même dans le régime passé, ça se faisait presque de la même façon. Alors ce qui fait assez que certains politiciens pourront en récupérer comme si c'était une intention de couper court. Ce que moi je suis en train de condamner actuellement, c'est que dans la réalité des choses, parce qu'il s'agit d'une épidémie qui ne choisit pas les camps politiques, il serait plus important que nécessairement et l'opposition et la majorité aient la même perception sur cette épidémie pour permettre à ce que la sensibilisation soit bonne. Vous allez vous rendre compte que dans l'opposition actuellement, on estime que le gouvernement est en train d'utiliser l'épidémie comme étant une raison pour couper court à certaines manifestations, ce qui n'est pas toujours réel. Alors à ce niveau, j'aurais voulu assez que, nécessairement dans la communication, parce qu'il s'agit du ministère de la Communication qui est là, je les félicite nécessairement pour cette communication qui est d'ailleurs bonne, mais je crois qu'il faut aussi faire le tout et utiliser les leaders d'opinion, par exemple, ou entrer encore dans les zones de santé, je ne sais pas le terme qui est approprié, mais dans les zones de santé, il y a toujours des gens qui peuvent atteindre la population directement. Vous allez vous rendre compte que dans mon pays, plusieurs personnes n'ont pas une capacité intellectuelle plus élevée. Alors si un politicien tombe là et puis il dit non, la maladie n'existe pas, et automatiquement ça donne une autre impression. Vous allez vous rendre encore compte que dans certaines régions jusqu'aujourd'hui, on tente encore de diaboliser le vaccin qui est mis à notre disposition par le gouvernement pour permettre à ce que nous n'ayons pas nécessairement cette continuation de cette maladie. Alors, l'unique des choses à faire, je demanderais que non seulement la sensibilisation, mais que la communication soit plus fiable, plus bonne et que ce soit continuel pour permettre à ce que la population ait quand même une capacité à la une pour permettre à ce que nous coupions court à cette propagation.
Merci beaucoup, Ornicard Banza. C'est depuis Likasi dans la province du Haut-Katanga que vous intervenez. Plus 243 81 32 34 883, c'est le numéro par lequel vous pouvez nous joindre. Alors, monsieur le ministre Mouyaya, on va vous laisser le temps de répondre à ces différentes préoccupations. Il y a notamment Kanga de Bandunduville qui a évoqué les perturbations qui ont eu lieu au centre de traitement d'Ebola de Rwampara, où quelques manifestants, on va dire quelques prestataires de la riposte réclament le paiement de 2 mois d'arriéré des primes ainsi qu'une amélioration de leur rémunération, de leurs conditions de travail. Vous avez la parole.
Bon, écoutez, d'abord, je voudrais remercier les compatriotes qui se sont exprimés. C'est la preuve, justement, que ce qui touche à l'Ituri, spécifiquement la maladie, touche les Congolais partout où ils se trouvent. Je voudrais aussi, parce que vous avez commencé par là, rendre hommage au personnel médical, aux médecins, les infirmiers, les hygiénistes et tout ce qui sont occupés quotidiennement dans la gestion de cette épidémie. Mmh. Ce sont des héros. Il faut que, on ne les dit pas suffisamment, mais il faut reconnaître le sacrifice et le travail dédié qu'ils font pour sauver la vie des Congolais. Mmh. Ceci dit, lorsque déjà nous vous disons que c'est des héros, lorsque nous vous disons que ce sont des personnes qui font un travail remarquable. Évidemment que nous sommes très sensibles sur les revendications, parce que il est itinérant dans un contexte où vous travaillez dans une telle pression. Sauver des vies humaines, il est bien important que les uns les autres, lorsque leurs droits n'y sont pas pleinement garantis tels qu'ils l'entendent, il faut les écouter. Et je crois que les dimanches derniers, les gouverneurs militaires du Litouri, ensemble avec l'incident manager, c'est-à-dire le point focal du ministère de la Santé qui gère toute la riposte, ils ont eu l'occasion de parler avec les personnels médicaux, les entendre. Et évidemment, il y a des préoccupations sur les primes, il y a des préoccupations sur les primes de risque, il y a toutes ces préoccupations ont été entendues et des réponses sont en train d'être données. J'étais sur place il y a, je crois, 2-3 semaines avec le ministre de la Santé. Il y avait des préoccupations du genre, notamment pour des hygiénistes. Et avec le ministre de la Santé, nous prenions les soins d'interroger tous les personnels médicaux s'ils avaient été rémunérés, s'ils avaient été payés. Certains entendaient de l'être, ils avaient reçu des codes parce qu'apparemment, pas apparemment, mais ils reçoivent leur prime par voie bancaire. Donc vous recevez des codes. Mais au-delà du personnel, évidemment, employé dans les hôpitaux, mais nous travaillons aussi avec des institutions partenaires et quels que soient les niveaux où les prestataires sont, nous voulons nous assurer que leurs intérêts sont garantis. C'est une question d'une très grande sensibilité que nous suivons. Alors, le même compatriote qui intervenait à partir de la ville de Bandundu avait dit, alerté en revenant, je crois, sur sur ce que disait le docteur Mouyembe une fois. Alors, il ne faut pas tomber dans la panique. Lorsqu'on dit le virus peut se transformer par relation sexuelle, ici, ce qu'il faut retenir, c'est que le virus peut survivre jusqu'à 2 ans dans les spermes de l'homme. Mais je ne suis pas sûr que on a déjà enregistré des cas fréquents ou des cas de contamination par cette voie au bout de 2 ans. Ceci dit, c'est pour ça que c'est important pour les uns et les autres de comprendre d'abord la maladie. Il y a un compatriote qui parlait, je crois, Évariste, qui a parlé de coronavirus. Ici, il faut que je me permette une petite comparaison pour que les uns et les autres comprennent la différence entre Covid et Ebola. Covid s'est transmis essentiellement par aérosol. Ça veut dire que nous parlons à partir de mes postillons, donc de mes salives, vous pouvez attraper la maladie. Maladie respiratoire. Ebola fonctionne différemment. Si je peux me permettre la formule, Ebola est une maladie qui atteint souvent les personnes intimes, les personnes qui sont dans l'intimité du malade. Ça veut dire, les médecins, vous avez quelqu'un à parler des médecins, des infirmiers qui sont morts, évidemment, parce que ils sont dans un degré d'exposition exceptionnel, parce qu'ils sont au contact des personnes malades. Je rappelle que vous ne pouvez attraper Ebola que lorsque vous êtes en contact avec les sécrétions ou les liquides d'une personne qui présente des symptômes. Donc, c'est pour ça que dans la plupart de cas que nous suivons, que nous soignons, c'était évidemment au départ beaucoup de personnels médicaux parce qu'ils étaient au contact des malades. Ensuite, les personnes qui sont à côté, ça veut dire, vous êtes malade, c'est votre femme, c'est votre fils qui prend soin de vous, il est superbement exposé. Et aujourd'hui, évidemment, quelqu'un parlait de la sensibilisation communautaire. Je crois que la communauté a été pleinement sensibilisée. Pourquoi on a eu beaucoup des difficultés au début de la riposte? Parce qu'il y avait une forme de méconnaissance de la maladie. Ici, nous connaissions, nous, la souche Zaïre. Et c'est cette souche pour laquelle nous avons trouvé un vaccin et un traitement qui est congolais, parce que nous avons l'expertise et l'expérience de la gestion de l'épidémie pour la souche Zaïre. La souche Bundibugyo est une souche sur laquelle on n'avait pas beaucoup fait des travaux, mais les travaux sont en cours, notamment pour arriver à trouver les traitements. Il y a une expérimentation des essais qui sont en cours notamment avec le MSO Afrique à CDC, pour voir les traitements des essais cliniques, pour voir c'est que les traitements peut donner. Les vaccins viendront plus tard, mais ici, il y a toujours une dimension de recherche. J'ai entendu quelqu'un parler de ça. N'oubliez pas qu'il y avait, il y a quelques jours, la visite du président sud-africain et du président Tshisekedi. Ils ont été à l'INERBE, qui est notre laboratoire de recherche biomédicale, qui était déjà à l'origine de la découverte de la maladie. Donc, ici, il est important que les uns les autres comprennent que ceux qui sont d'abord exposés à la maladie, ce sont les personnes les plus proches, premièrement. Deuxièmement, nous faisons beaucoup de sensibilisation communautaire. Parce que Bundibugyo ne se révèle pas tout de suite comme Ebola Zaïre avec des saignements. Bundibugyo se présente un peu comme la malaria, un peu comme des céphalées. Et donc, si vous n'avez pas pleinement conscience en ce moment-là, vous allez chercher à soigner la malaria jusqu'à ce que quelques jours plus tard, la phase humide, qui est la phase la plus dangereuse, commence, et c'est là que la situation devient un peu délicate. Mais aujourd'hui, nous sommes plutôt satisfait de voir que les communautés ont pris conscience, et la mesure que nous avons prise de traiter de manière gratuite toutes les maladies permet aujourd'hui aux uns aux autres de se rendre directement à l'hôpital. Parce que la maladie, si je disais que l'autre forme de traitement, c'est la prévention. Lorsque vous prenez conscience de la maladie, vous allez à l'hôpital tôt, vous ne gardez pas les cas à la maison, vous adoptez des réflexes qui vous permettent d'éviter d'être contaminé.
Les gestes barrières.
Vous entendez beaucoup parler des antennements dignes et sécurisés, parce que c'est lorsque quelqu'un présente les symptômes, c'est lorsqu'il y a les cadavres que le virus a parfois sa forme la plus virulente, et qu'il est, il est interdit aux uns aux autres d'être en contact avec des corps, des cadavres, même si c'est nos proches parents, parce qu'il y a des risques des contaminations. En remontant les origines de la maladie, c'est parti un peu de cette manière. Alors, quelqu'un avait posé la question, quand est-ce qu'on a découvert la maladie? Alors, je présume qu'il parle de la résurgence actuelle avec Bundibugyo. Les premiers cas ont été signalés autour de 5 mai. Et à partir de ce moment-là, toutes les habilitations ont été faites en termes de textes de laboratoire pour arriver d'abord à établir que c'est Ebola, arriver à établir la souche pour voir quel traitement proposer. Et je crois que suivant les protocoles établis par des spécialistes, nous avons été dans le délai, parce que déjà au 15 mai, nous avons déclaré officiellement l'épidémie, nous avons déployé une riposte qui est robuste aujourd'hui à Bounia. Je crois que nous avons plus de 600 à 700 lits capables justement de traiter et les malades, et les cas suspects. Nous avons renforcé sur place nos capacités des testing. Ça veut dire que lorsque quelqu'un est infecté par la maladie, il se présente en laboratoire, nous sommes en mesure de le dire 24 heures après. Et aujourd'hui, les chiffres que vous voyez, autant je pense que pour certains, ça soulève des inquiétudes, mais autant pour nous, c'est significatif en termes de notre capacité des testings, en termes de suivi des cas suspects, en termes de suivi des personnes sous traitement, et surtout en termes de suivi des personnes guéries. Jean-Marc Matuaki, on n'en parle pas beaucoup, mais nous avons 253 personnes guéries à ces jours. Nous avons atteint le 81% dans la recherche des cas contacts. Je crois qu'il y a un compatriote qui s'inquiétait et qui disait, mais l'épidémie va se propager. Évidemment, nous travaillons pour que l'épidémie ne se propage pas, et nous sommes presque à 2 mois depuis les déclenchements de cette épidémie. Nous avons plus ou moins contenu l'épidémie dans les 3 provinces. Ceci ne veut pas dire que nous devons baisser des vigilances. Au contraire, nous les renforçons dans des zones, dans les provinces environnantes, dans le Haut-Uele, dans les Bas-Uele, dans la Tshopo, quelqu'un parlait de la Tshopo, et même à Kinshasa, dans le point d'entrée, nous avons mis en place des dispositifs, des screenings qui permettent de suivre les cas et de prendre des alertes dans l'hypothèse où il y a quelqu'un qui présente des températures élevées à l'arrivée. Ici, je voudrais aussi rappeler, parce qu'il y a un compatriote qui a dit, mais pourquoi seulement nos compatriotes de l'Est? Attention, il y avait des bandes par les passés il y a quelques années, mais récemment, l'année dernière, nous avions réglé l'épidémie à Boulap et dans les Kassai. C'est pour simplement dire que l'épidémie ne choisit pas, la maladie ne choisit pas les provinces. La maladie ne choisit pas les courants ou le camp politique. C'est pour ça qu'il est important, dans les cas de cette riposte, et nous sommes plutôt contents de voir que nous avons un niveau d'implication élevé. Hier encore, j'ai discuté avec le président du caucus des élus de l'Ituri. Nous sommes très engagés avec les députés provinciaux sur place, les autorités coutumières. Je vais même aller plus loin. Hier, j'ai reçu le coup de fil du président des orpailleurs à Mongualou, l'épicentre de la maladie. Nous y étions. Et vous voyez que si nous arrivons à travailler étroitement avec les communautés partout, nous sommes d'abord sûrs que la dimension de la communication et des relais communautaires fonctionne. Et parce que quelqu'un disait ici qu'il faut accroître la sensibilisation. La sensibilisation actuellement, nous travaillons quotidiennement avec les organisations des motards, de chauffeurs, parce que ce sont des personnes qui peuvent non seulement être exposées elles-mêmes, mais qui peuvent aussi passer par les différents coins pour passer les messages. Nous avons recruté à peu près 2500 relais communautaires. C'est des personnes qui utilisent, y compris les langues locales, pour sensibiliser sur la maladie. Nous travaillons avec l'UNADI, qui est une organisation qui regroupe toutes les 21, communautés en Ituri. Et donc, vous voyez que nous ne laissons aucun fait au hasard. Nous travaillons sur tous les piliers en même temps pour nous assurer que notre riposte reste robuste et reste à la dimension de la maladie.
Il y a un auditeur qui a parlé de la récupération politique.
Bon, écoutez, c'est bien dommage justement de penser qu'on peut faire la récupération politicienne d'une maladie. On en a entendu les 6 M23 du père le Rwanda qui endeuille nos populations dans l'Est dire que c'était une maladie inventée pour exterminer les swahilifones. C'est de l'horreur pour ceux qui quotidiennement tuent des swahilifones avec la gouvernance par crime qu'ils ont utilisée. C'est exactement les types des discours qu'il faut jamais entendre. Ici, il y a un besoin urgent de sauver des vies humaines, et ces besoins urgents de sauver des vies humaines passent notamment par une communication. Nous la faisons au niveau institutionnel, nous l'organisons au niveau de la base. Moi qui vous parle, j'ai des équipes qui sont maintenant basées à Bounia. Ils y sont parce qu'il faut travailler avec nos compatriotes qui sont sur place. J'ai entendu un médecin dire que nous étions disponibles pour y aller et qu'on a amené des médecins ougandais. D'abord, c'est faux. Il n'y a pas de médecin ougandais qu'on a exporté à Bounia pour traiter la maladie. Ici, je voudrais rendre hommage à nos compatriotes qui sont originaires justement de l'Ituri. Parce que c'est eux qui sont les premiers à être au devant de la riposte. J'ai été impressionné lorsque je regardais les jeunes médecins qui est à l'hôpital général de Bounia, celui qui est à l'hôpital de Mongualou, ou encore le médecin chef des zones dans la zone de Bounia. Vous voyez que nous avons en République démocratique du Congo des compétences. Et en Ituri, on a des compétences locales qui font un travail extraordinaire, et c'est d'ailleurs
Monsieur
eux qui
ministre,
sont les
premiers. Monsieur le ministre, on va vous retourner la parole. Il est temps pour nous de retourner au standard où il y a encore des auditeurs qui veulent prendre la parole. N'hésitez pas à appeler si vous nous écoutez. Plus de 143 81 32 34 883. Nous faisons les points sur la riposte contre Ebola avec le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, qui est l'invité de votre magazine. Nous allons retourner au standard pour prendre Blaise Saïdi. Blaise, bonjour et bienvenue à ces débats. Vous avez déjà la parole, si vous pouvez activer votre micro.
Oui, merci beaucoup. Je salue l'excellence Patrick Mouyaya. Bon, cher Dijano, je vais donner une contribution et poser ne fût-ce que deux, trois questions à l'excellence Patrick.
Vous autorise à poser deux questions seulement parce qu'il y a, Victor Ndouzi, docteur Jean-Luc et Glody Bouanganga qui veulent aussi réagir. Si vous pouvez aussi leur laisser un peu de temps.
Merci. D'ailleurs, je pars bien vite à quelques questions pour laisser place à d'autres personnes.
C'est très gentil.
Je demande à l'excellence Patrick Mouyaya quel est le message que le gouvernement va adresser aux populations des zones touchées afin d'encourager à participer activement aux efforts de prévention et de lutte contre Ebola. Ça, c'est la première préoccupation. Et la deuxième préoccupation, où en est aujourd'hui le projet de développement d'un vaccin contre le virus Ebola de Souche Boudibigio. Et quand peut-on espérer disposer d'un vaccin efficace? Je me limite à ces deux questions pour laisser place à d'autres personnes.
À d'autres personnes, c'est notamment Victor Nzouzi qui nous appelle depuis Mbanzangungu. Victor, bonjour et bienvenue à ce débat.
Bonjour.
Vous avez déjà la parole et si vous pouvez être bref et concis.
Oui, merci beaucoup pour la parole. En fait, je voulais d'abord donner une précision au ministre. Quand on parle de récupération politique, c'est lorsque le gouvernement a parlé de l'interdiction des manifestations à Kinshasa du fait du virus Ebola. Donc, il faut que le ministre soit clair là-dessus. Alors, ma question, ministre, nous parlons de prévention, nous parlons de toutes les dispositions prises. Le bilan qu'il fait, c'est dans la zone... C'est dans la zone contrôlée par le gouvernement seulement ou de manière totale. Après, moi j'habite le village. Nous savons que c'est plus ceux qui sont les citadins qui sont plus soignés, qui sont plus pris en compte. Quelles sont les dispositions qu'on prend dans le fin fond de village? Parce que là, souvent nous constatons, on en a entendu parler, hein, des gens qui avaient des problèmes pour déplacer les échantillons. Parce qu'il n'y avait pas de moyens de transport. Et je termine par Kinshasa. Kinshasa, aujourd'hui, concrètement, quelles sont les dispositions prises? Quelles sont les mobilisations faites et les dispositions?
Victor, vous avez un petit souci de connexion.
Arriver à Kinshasa, qu'on n'arrive pas à le faire, qu'on n'arrive pas vraiment à atteindre beaucoup plus de personnes. Je m'arrête là, merci beaucoup.
Merci Victor. Docteur Jean-Luc Katende, vous nous appelez depuis Lubumbashi. Bonjour et bienvenue à ces débats.
Bonjour, monsieur le journaliste. Merci parce que j'ai bien écouté, monsieur le ministre, l'excellence, qui a loué le prouesse que, en tout cas, il y a 253 personnes guéries, 81% de cas contact. Et jusque-là, on a réussi à contenir l'épidémie dans trois provinces. Mais je vais aller tout droit au but pour dire au ministre, monsieur le ministre, si aujourd'hui, il y a des cas contacts qui voyagent de l'Ituri, Bounia, vers Kinshasa, alors qu'à Kinshasa, nul n'ignore que les médecins sont en grève. Il y a toutes les organisations là, Simeco, Siramed, tout ça, qui ont même décrété une grève sèche. Par manque de paiement des médecins depuis 5 mois. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est la question vraiment que je voudrais poser au ministre. Ils veulent ignorer que les médecins sont en grève. Si aujourd'hui Ebola est à Kinshasa, avec ces médecins qui sont en grève, comment ils vont faire la riposte? Merci beaucoup.
Merci docteur Jean-Luc Katende. Glody Wanganga, c'est depuis Kinshasa que vous intervenez. Bonjour, si vous pouvez activer votre micro.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à l'excellence Patrick Mouyaga. Merci de m'avoir associé dans ce niveau du débat. D'entre DG, je voulais seulement poser la question à monsieur Patrick. Monsieur le ministre, pour votre information, je vous informe maintenant. Actuellement, si vous voulez aller en Chine, l'ambassade de Chine exige aux Congolais d'aller faire les examens au niveau de l'air hôpital. Et quand vous arrivez dans l'air hôpital, les examens coûtent 250 $, monsieur le ministre. Comment voulez-vous, nous, ils veulent nous imposer dans notre pays? Quelle est la solution que vous pouvez donner aux Congolais? C'était ça juste la préoccupation qui me dérangeait, parce qu'il y en a tellement nombreux.
Merci, Glody.
Mais oui, le temps ne nous permet pas. Si le ministre pourrait, merci, je vous remercie.
On va clôturer la série des questions avec Aimé Moulumba, qui nous appelle depuis Bounia. Et c'est le dernier intervenant. Aimé, si vous pouvez faire comme les autres, être bref et concis. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
Vous avez déjà la parole. Aimé, c'est pour poser une question ou une contribution. Est-ce possible d'ouvrir votre micro? Parce qu'on est déjà vers la dernière partie de l'émission.
Oui, bonjour, messieurs les journalistes. Je salue également la présence du ministre de l'Information, ainsi que tous les auditeurs de la radio Capi. Alors moi, je suis sur place à Bounia. Nous avons l'expérience par rapport à tout ce qui se passe, mais nous avons un constat. Le constat est un peu amer. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a trop souvent des victimes, des patients qui sont malades, et puis lorsqu'on appelle les groupes de riposte, en tout cas, il tarde à venir. J'ai au moins 4 cas que moi-même, moi qui vous parle, on a appelé les gens de l'équipe de riposte, qui n'arrivent pas à temps. Et ça mène même les patients à succomber, même à mourir. Alors, je voulais poser la question à son excellence, au ministre de l'information. Est-ce qu'il y a une mesure ou bien il y a une disposition que le gouvernement a prise pour que l'équipe de riposte soit bel et bien prise en charge? Parce qu'apparemment, c'est comme s'ils ne sont pas vraiment pris en charge, et ce qui fait qu'ils puissent délaisser les patients. La deuxième question, maintenant, comme étant un pays organisé, quelles sont les préventions que nous pouvons prendre? Parce que la maladie n'était pas de chez nous, les provient de l'Ouganda. Maintenant, pour les autres provinces, quelles sont les préventions que le gouvernement met en place pour que cette maladie-là ne puisse pas atteindre d'autres contrées? Je vous remercie.
Merci beaucoup. Aimé Moulumba, parole aux auditeurs, fait le point. On va dire un bilan mi-parcours sur la riposte contre Ebola avec le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, que nous recevons. Alors, les deux dernières questions que deux internautes nous ont laissées, ce sont celles de savoir quels sont les principaux obstacles dans la riposte, monsieur le ministre. Est-ce que la sécurité, le financement, l'accès aux zones reculées, les manques de vaccins contre la souche Bundibugyo, et puis comment les gouvernement gère-t-il la double crise sanitaire et alimentaire, sachant que plus de 2 millions de personnes dans les zones touchées sont déjà en insécurité alimentaire sévère? Vous avez la parole.
Écoutez, évidemment que la crise humanitaire ne vient pas faciliter les choses. Et si vous avez suivi la dernière réunion qui a eu autour des deux présidents, vous avez vu que ma collègue Bazaïba est intervenue. Nous travaillons notamment avec Africa CDC dans le cadre de la mobilisation de fonds pour qu'on en mobilise, y compris pour de besoins humanitaires que pour de besoins de riposte. Il y a des choses qui ont été dites ici pour lesquelles je ne suis pas du tout d'accord. D'abord, premièrement, je vous ai dit tout à l'heure que nous avons été à Mongwalou. Mm-hmm. Ça veut dire qu'il n'y a aucune zone qui ne soit touchée où nous n'allons pas. À Mongwalou, je suis allé, c'était l'épicentre de la maladie, avec mon collègue de la santé. Mm-hmm. Je vous ai parlé des orpailleurs tout à l'heure, parce que pour nous, les vies de Congolais, où elles se trouvent, elles importent. Et d'ailleurs, je rappelle, parce que quelqu'un a fait une allusion à cela tout à l'heure, que le vrai commandant de la riposte, si je peux me permettre, c'est le président de la République lui-même. Et donc, vous avez vu plusieurs fois comment il s'est mis à disposition pour des réunions. Il y a une task force multisectorielle au niveau du gouvernement qui ne s'occupe pas que de la maladie, mais qui analyse aussi les conséquences de la maladie sur les emplois, sur les attractivités économiques de nos différentes provinces. Je rappelle quand même que sur la province de l'Ituri, aujourd'hui Bounia est complètement métamorphosée avec un nouvel aéroport, avec des routes qui ont été refaites et la lumière. Et donc il y a plein de choses qui s'effondrent parce que nous, au niveau du gouvernement, au niveau du président de la République, nous avons besoin non pas seulement de développer nos provinces, mais de leur donner des capacités. Parce que nous parlons justement de la santé. On a besoin, par exemple, et c'est la stratégie qui est en cours, tout ce qui sera investi à Bounia et dans les parties du pays qui sont sous riposte vont servir d'héritage. Ça veut dire qu'il n'y a aucune ambulance, il n'y a aucun laboratoire que nous allons amener à Bounia, qui quittera Bounia après l'épidémie. Parce que à la fin, nous voulons nous assurer que nous avons vaincu l'épidémie et nous avons renforcé les systèmes de santé localement. Et parce que les systèmes de santé étaient tenus d'abord par les médecins. On ne peut pas faire des ripostes et ne pas tenir compte de ceux qui se dédient au quotidien pour la riposte. Évidemment, vous savez, Jean-Marc Wataki, quelqu'un parlait des défis. Nous avons des défis de plusieurs ordres. Évidemment, un défi financier. Nous avons un défi logistique. Nous avons un défi de sécurité, même si cela ne ressemble pas à tout ce qu'on a toujours raconté sur la province de l'Ituri. Parce que là aussi, nous avons fait beaucoup de progrès au-delà de la perception que les uns et les autres veulent avoir sur la province. Et donc, ici, la première composante sur laquelle nous comptons, c'est la composante humaine. Ces médecins, ces personnels soignants, ces hygiénistes, parce que lorsque nous étions dernièrement à Bounia, justement, il y a une personne guérie qui nous disait, qui insistait sur l'importance du travail qui est fait par des hygiénistes, ceux qui nettoient. Pour vous donner une illustration de toutes les composantes avec lesquels nous travaillons dans le cas de cette pandémie. Évidemment que s'il y a des revendications, Nous sommes attentifs. Nous avons entendu, j'ai parlé avec le ministre de la Santé, il y a une prise en charge globale de la question et qui va permettre que tout ce que nous rencontrons comme pesanteur, comme difficulté, qui va permettre que cela puisse être élevé. Il ne faut pas considérer que lorsqu'il y a des voix qui s'élèvent pour réclamer A plus B, que ces personnes qui réclament vous disent ne veulent plus se dédier. Non, les médecins sont liés, un peu comme les militaires, ils ont les serments d'Hippocrate, et pour lesquels, ici en tout cas, dès ma première phrase jusqu'à maintenant, je continue de leur rendre hommage. Et je voudrais quand même mentionner, on ne les dit pas souvent, et c'est peut-être pas de bon aloi d'en parler publiquement, mais les médecins et les personnels soignants qui ont perdu des familles aujourd'hui, il y a une prise en charge qui est organisée au niveau de l'INSP et du CUSP qui travaille localement. Il n'y a aucune famille de médecins ou d'infirmiers qui ne soit mort durant cette pandémie, qui n'ait pas reçu la visite des autorités avec évidemment l'accompagnement nécessaire, qui compense pas la mort mais qui prouve qu'il y a un niveau d'engagement. Et je vais terminer parce que nous avons déjà les jingles de fin, en rappelant aux uns et aux autres que nous avons non pas seulement l'expérience ou l'expertise, mais que nous avons déjà mis en place une riposte qui est robuste, que nous renforçons quotidiennement, mais que nous avons davantage besoin de l'implication communautaire à la base des élus locaux, des élus nationaux, des sensibilisateurs, de motards, de chauffeurs, de orpailleurs, de mamans maraîchères, des églises, pour que nous tous nous puissions prendre conscience de la maladie et qu'on travaille à la vaincre ensemble.
Voilà. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci d'avoir participé à ces débats sur les bilans, sur la riposte contre Ebola. Merci à toute l'équipe. Merci, monsieur le ministre Mouyaya. Merci à toute l'équipe Esther Mambote, David Moussangou, Nancy Atambo, Paul Badianyama et Patrick Kiasongwa. Je suis Jean-Marc Matoa qui m'offre les 10 journaux.